Comme chaque dernier mardi du mois, l'association Braise Europe Finistère nous décortique l'Union européenne avec ses propres experts finistériens ou avec d'autres spécialistes, comme c'est le cas aujourd'hui. Maëlle Cordeau a interviewé Claire Vicarneis, une chercheuse en politique européenne.
Bonjour Claire Vicarneis.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée sur les questions sociales à l'Institut Jacques Delors. En quelques mots, qu'est-ce que l'Institut Jacques Delors et quelles sont ses principales missions ?
Merci d'abord de m'avoir aujourd'hui. L'Institut Jacques Delors, en fait, c'est un think tank européen, donc un institut de recherche qui est spécialisé sur les questions européennes. Et il a été fondé par Jacques Delors à la fin de sa présidence de la Commission européenne, donc en 1996, sous le nom de Notre Europe. L'objectif de l'Institut, c'est de produire en fait des analyses et des propositions destinées aux décideurs européens et aux citoyens, et plus généralement de contribuer au débat relatif à l'Union européenne.
Et donc vous, quelles sont vos missions en tant que chercheuse au sein de l'Institut ?
Alors, en tant que chercheuse, mon rôle, c'est d'abord de m'informer, bien sûr, sur ce qui se passe au niveau européen, donc réaliser une veille constante sur mes sujets, donc les questions sociales et l'égalité femmes-hommes principalement. Et ensuite, c'est de rédiger des publications pour décrypter certaines politiques ou tendances au niveau de l'UE, mais aussi pour faire des propositions, des recommandations à partir de ces analyses et des différentes données que j'aurais pu collecter.
Et donc le public qui s'adresse à ces études, en fait, est assez large.
Voilà, je dirais qu'il y a deux grands publics. D'abord, les citoyens en général, puisqu'on cherche à faire connaître et à faire parler d'Europe et à sensibiliser les gens sur les enjeux à l'échelle européenne. Et d'un autre côté, il y a aussi un public peut-être plus expert, puisqu'on veut contribuer au débat actuel et en particulier voilà, les décideurs auxquels on soumet nos idées et nos propositions.
Et donc, pour revenir juste sur Jacques Delors, qui est quand même très connu, donc il a été président de la Commission européenne de 1985 à 1995. On dit souvent de lui que l'Europe sociale est née sous son impulsion. Est-ce qu'on peut dire que cette affirmation est vraie ? Et aussi, quels seraient les enjeux d'une Europe dite sociale ?
Merci pour cette question. Effectivement, c'est une vaste question. C'est vrai, il y a ce qu'il y a un moment de l'or, ce qu'on appelle l'âge d'or un peu de l'Europe sociale, qui comprend ces 10 années passées à la tête de la Commission, vous l'avez rappelé, et puis les années un peu dans son sillage. Alors d'abord, je pense qu'il faut un peu refaire un point historique. Historiquement, donc c'est vrai que même si des dispositions sociales existent depuis le traité de Rome, donc depuis 1957, par exemple le Fonds social européen, il est vrai que avant l'arrivée de Delors, la communauté économique européenne était plutôt vue comme un espace de coopération économique et dont les bénéfices permettraient aux États de développer eux-mêmes leur système social. Donc voilà, c'était vraiment le côté social était laissé plutôt aux États. Jacques Delors, lui, il a vraiment souhaité inscrire les questions sociales à l'agenda européen, car il était, et puis il est toujours d'ailleurs persuadé, que les questions économiques et sociales ne peuvent pas être traitées séparément. Et donc pendant cette période, et jusqu'au début des années 2000, il y a eu des avancées majeures pour l'Europe sociale. Je pense que c'est quelques-unes, notamment par exemple voilà, la relance du dialogue social européen par Jacques Delors dès 1985 et puis après son institutionnalisation dans les traités, la Charte européenne des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l'UE, et puis des législations européennes. On en parlera sans doute plus tout à l'heure, mais il y a eu des avancées notamment en matière de congé maternité, sur le travail à temps partiel, etc. Donc, des vraies avancées pendant cette période. Mais malgré quand même l'impulsion et même l'engagement personnel donné par Jacques Delors pour une Europe plus sociale, il le dit lui-même et il le disait même à l'époque, il n'a pas réussi à concrétiser, disons, toutes ses ambitions, et notamment pour rééquilibrer la jambe économique, disons, et la jambe sociale de l'UE. Et donc j'aimerais bien, si c'est possible, de parler un tout petit peu de la période qui a suivi, puisque l'âge d'or, c'est, on va dire, terminé. Avec une période, on peut dire, où l'Europe sociale a été en panne, puisque C'est une période qui a été marquée déjà par l'élargissement à l'Est, donc des disparités, on va dire, croissantes, politiques et économiques au sein même de l'UE, mais surtout par un tournant assez néolibéral des politiques européennes avec la crise de la zone euro. Et ça a conduit à des mesures d'austérité très difficiles pour plusieurs États, en particulier la Grèce, évidemment. Et donc voilà, des conséquences très néfastes sur certains systèmes de protection sociale au niveau national. Juste pour donner un exemple concret, la Grèce avait dû baisser son salaire minimum de 20%, autour de 20%, 22%. Donc là, c'est des mesures extrêmement drastiques qui ont touché donc évidemment salaire et retraite, mais aussi le système éducatif, le système de santé. Et donc pour finir sur cette aperçu historique, pourquoi on parlait d'âge d'or, puisqu'elle était entre deux périodes un petit peu moins fertiles sur les politiques sociales. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de changer depuis la présidence de Jean-Claude Juncker et avec la présidence de Madame Ursula von der Leyen. Les questions sociales sont de nouveau à l'agenda européen et voilà, je pense qu'on pourra en parler plus tard.
Vous avez déjà cité quelques exemples justement d'avancées et surtout de mise en pratique de l'Europe sociale. Est-ce qu'il y en aurait d'autres, notamment en termes d'accès aux soins, de protection des travailleurs? On peut parler de garantie des salaires aussi.
Oui, tout à fait. Le droit européen fixe des exigences minimales, en fait, pour les États membres en matière de droits sociaux. Donc, ça permet, en fait, un seuil de protection minimale. J'en ai cité quelques-uns. Évidemment, le congé maternité de 14 semaines, mais on peut citer plus récemment 10 jours de congé paternité et puis 4 mois de congé parental. Mais il existe évidemment d'autres seuils. Par exemple, 4 semaines minimum de congé payé dans tous les États membres, un âge minimum pour travailler de 15 ans, etc., etc. Donc ça, c'est très important, mais il y a aussi d'autres mesures, par exemple, c'est pas forcément des mesures contraignantes, mais c'est quand même des mesures qui permettent des avancées importantes. Par exemple, une recommandation sur la reconnaissance mutuelle des diplômes entre les États, sur l'accès à la protection sociale pour les travailleurs atypiques. Par exemple, aussi la garantie européenne pour la jeunesse, ça c'est important, ça permet à chaque jeune de moins de 30 ans de bénéficier d'une offre d'emploi, de formation ou d'apprentissage ou même de stage dans les 4 mois qui suivent la fin de ses études ou la perte de son emploi. Donc ça, c'est le genre de mesures qui existent au niveau européen. Donc c'est les outils législatifs. Il y a aussi le côté financement européen, sous forme soit de subventions, soit de prêts. Et ça apporte en fait un soutien financier aux États membres pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces politiques sociales. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de différents programmes. Évidemment, le Fonds social européen que j'ai cité tout à l'heure, mais également le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Aujourd'hui, en France, pour être très concret, ce fonds finance un tiers de l'aide alimentaire en France. Et donc, il finance un repas sur quatre distribué par les Restos du Cœur. Donc, c'est vraiment des choses qui touchent directement les gens. De façon encore plus récente, il y a le programme qui a été lancé par la Commission au tout début de, très rapidement après le début de la crise de la pandémie de Covid-19. C'est un programme de 100 milliards d'euros pour soutenir les systèmes de chômage partiel dans l'Union européenne. Et en fait, ce programme de prêt a permis de soutenir directement 31 millions de personnes, de travailleurs pendant cette crise. Je terminerai aussi sur d'autres programmes qui sont, disons, un peu phares pour l'Union européenne, c'est les programmes de mobilité et notamment le programme Erasmus, qui a permis ces 30 dernières années d'envoyer, on va dire, 10 millions de personnes dans plus de 30 pays. Et pour le programme, par exemple, 2021-2027, le budget d'Erasmus a été presque doublé. Il est de 26 milliards d'euros. Donc voilà, c'est des choses qui ont un vrai impact sur la vie des gens.
Tout à fait. Surtout l'exemple des Restos du Cœur qui aujourd'hui là est hyper intéressant. L'un des objectifs aussi de l'Union européenne, pour le rappeler, c'est de tendre vers une harmonisation économique des États. autrement dit de lisser les disparités qui pourraient exister, notamment entre la Bulgarie, qui est considérée comme l'État le plus pauvre de l'UE, et le Luxembourg le plus riche, au regard du produit intérieur brut par habitant. Et donc face à ces disparités, est-ce qu'on pourrait envisager que la compétence sociale passe entre les mains de la Commission européenne pour justement contraindre les États membres à accélérer la cadence?
Alors, merci pour cette question. Là encore, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments dans votre question, donc je vais essayer de les prendre un par un. D'abord, effectivement, il y a beaucoup de disparités en Europe, il ne faut pas le nier. Rien qu'en termes de chômage, de pauvreté, juste pour donner quelques chiffres pour vraiment montrer ces disparités. Le chômage des jeunes, il est d'environ 14-15% au niveau européen, mais en Allemagne, il est à 5,7%, alors qu'il est à plus de 32% en Espagne. Donc, c'est vraiment énorme comme disparité. Pareil pour le taux de pauvreté, je pense que c'est important de le rappeler. On est à peu près à 21,6% dans l'Union européenne. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel il faut encore beaucoup travailler, puisque 21%, c'est beaucoup trop. Mais il est de presque 36% en Roumanie et seulement 11% en République tchèque. Donc voilà, il y a des vraies disparités et ça c'est pas quelque chose qu'on peut nier. Après, il faut juste nuancer la question. Les disparités, par exemple, certaines ont l'air extrêmes, le salaire minimum. 330 € en Bulgarie, plus de 2 200 € au Luxembourg, certes, mais quand on prend en compte les niveaux de vie, donc les prix dans les différents pays, le ratio, il diminue beaucoup. Donc, il diminue de 1 à 7, donc 7 fois plus élevé au Luxembourg qu'en Bulgarie, à 1 à 3. Et puis, il faut nuancer aussi parce que la convergence, elle est en route déjà. Sur les sujets, notamment par exemple sur le salaire minimum, les salaires minimums augmentent plus vite dans les pays du Sud et de l'Est que dans les pays de l'Ouest. Donc voilà, c'était les disparités qui existent, qui ne vont pas nier, mais qui sont quand même déjà en train d'être, de se réduire. Ensuite, sur la compétence. Alors, sur la compétence, c'est une question très compliquée. Il faut pas être naïf. L'Union européenne, n'a pas de compétence exclusive sur les questions sociales, loin de là. Il s'agit d'une compétence soit partagée, soit une compétence d'appui. Donc c'est un peu technique, mais on va dire pour résumer que l'UE a des compétences limitées, donc elle ne peut pas tout faire. Il y a ce qu'on appelle aussi le principe de subsidiarité. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, elle a plusieurs outils. Elle peut utiliser la législation, elle peut fixer des seuils minimums, elle peut proposer des financements, il y a aussi le dialogue social, et elle peut aussi, un dernier outil, c'est ce qu'on appelle la méthode ouverte de coordination. C'est un outil supplémentaire qui permet de définir des objectifs communs dans le cadre de stratégie et puis d'échanger des bonnes pratiques sur les sujets sociaux. Donc par exemple, si en Finlande il y a des mesures qui sont très efficaces, et c'est le cas pour réduire le nombre de personnes sans abri, alors par exemple d'autres États membres peuvent les appliquer eux-mêmes ou s'en inspirer sans devoir forcément réinventer la roue au niveau européen. Donc voilà, cette méthode, Elle permet de faire ça, elle permet de surveiller aussi les performances des États, donc grâce à des indicateurs, et identifier des déséquilibres afin de remédier à la situation. Par exemple, si un État a un taux de chômage trop important ou un écart salarial trop important, l'Union européenne va pointer du doigt cette situation et va proposer des recommandations dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen pour y remédier. Donc voilà, c'était pour rappeler un petit peu ce que peut et ne peut pas l'Union européenne. Par contre, s'il devait y avoir un changement de traité, mais d'ici là, il faut jouer dans ce cadre. Et l'Union européenne a encore beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir proposer des politiques ambitieuses sur le plan social en utilisant tous ces outils. Donc dans le cadre de la coordination économique, des politiques économiques, donc le semestre européen, grâce à des directives, etc., etc. Donc, je sais que c'est pas la réponse la plus facile, la plus, mais c'est pour dire qu'il y a de la marge de manœuvre pour agir, et c'est ce qu'elle fait en ce moment, la Commission européenne, là, avec notamment la directive sur les salaires minimums, dont on va sans doute parler.
Non, mais c'est une réponse très complète. De toute façon, effectivement, elle était un petit peu compliquée et très vaste à traiter. Et effectivement, les salaires minimums, donc récemment, les députés européens ont voté donc en faveur d'une nouvelle directive européenne donc, qui vise à augmenter ces salaires minimums dans les États membres. Question peut-être très technique, quel est l'objet de cette directive et est-ce que c'est une vraie avancée sociale justement pour l'UE?
Merci pour cette question. Oui, je pense que c'est important d'y revenir parce que ça a quand même fait beaucoup de bruit, et je pense qu'il est important de remettre un peu les choses au clair. Alors, déjà, pourquoi la Commission a proposé une telle directive? D'abord, il y a une augmentation en fait des inégalités salariales. Donc, dû au recul notamment des négociations collectives, à une polarisation en fait croissante sur le marché du travail en Europe, une augmentation des inégalités salariales, mais aussi de la pauvreté au travail dans l'Union européenne. Ça, c'est assez inquiétant, puisqu'elle est passée de 8,3% en 2007 à 9,4% en 2018. Et à cela s'est ajoutée la crise du Covid, qui a touché les secteurs à bas salaire, notamment, évidemment, dans le secteur des soins. Donc, pour toutes ces raisons, la Commission a proposé en octobre 2020 une proposition pour des salaires minimums adéquats dans l'Union européenne. Et pourquoi je dis bien le nom spécifique, c'est parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un SMIC européen. Ça n'aurait pas de sens pour plusieurs raisons. Déjà parce que tous les États européens n'ont pas de salaire minimum. C'est le cas de 6 pays européens, donc l'Autriche, l'Italie, Chypre, le Danemark, la Suède et la Finlande. Et puis, ça n'aurait pas sens aussi parce que les écarts, comme on l'a vu tout à l'heure, sont très importants. Et donc, pour le Luxembourg, si on prenait un SMIC européen, un peu qui ferait la moyenne entre tous les SMIC dans l'Union européenne, ce serait vraiment un recul pour les travailleurs luxembourgeois. Et d'un autre côté, en Bulgarie, par exemple, ce serait sans doute intenable sur le plan économique. Donc, ça n'aurait pas de sens de mettre en place un SMIC européen. Par contre, ce que fait la directive, c'est d'améliorer le caractère adéquat des salaires minimums. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour les pays qui ont des salaires minimums, faire en sorte que ces salaires soient suffisants pour que les travailleurs puissent vivre décemment. Donc, avec évidemment beaucoup de critères différents. Et puis ensuite, le deuxième objectif de cette directive, c'est promouvoir les négociations collectives dans les États membres. Et ça, c'est très important parce qu'on voit que les pays qui ont un fort taux de couverture de négociations collectives, ils ont des salaires en général plus élevés, ils ont moins d'inégalités salariales, donc ils ont moins de personnes qui travaillent à des salaires bas. Promouvoir les négociations collectives, c'est aussi, sur le long terme, améliorer les salaires. Par contre, il ne faut pas penser que cette directive pour des salaires minimums adéquats dans l'Union européenne sera la panacée et réglera tous les problèmes et empêchera la pauvreté au travail dans l'Union européenne. Pas du tout. Il y a encore beaucoup de travail à faire et d'autres directives et d'autres mesures qui doivent être mises en place par l'Union européenne. Pour en citer quelques-unes, par exemple, il y a une directive qui arrive sur les travailleurs des plateformes. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail à faire sur d'autres sujets comme l'écart salarial, etc., etc. Donc voilà, la directive sur les salaires minimums, c'est une avancée. C'est évident. Ça dépendra évidemment de son implémentation, de sa mise en œuvre. Mais ce n'est pas la panacée. Et il faut continuer à œuvrer pour une Europe plus sociale.
Très bien. Merci beaucoup, Clairvy, pour tous ces éclaircissements.
Merci à vous.
Et on retrouvera Braise Europe Finistère pour un autre rendez-vous européen très bientôt. Ce sera le 13 décembre.